qu'il y a des belles choses à entendre. Et prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta fidélité auprès de Paul. Merci pour la manière dont tu agis dans toutes nos vies. Merci Seigneur
d'avoir utilisé Paul pour
parler de la bonne nouvelle, Seigneur, avec tellement de gens et d'avoir permis tellement de gens de venir à toi, Seigneur. Grâce à son témoignage, grâce à sa vie. Merci Seigneur pour son engagement ici dans cette église. Merci pour la manière dont il sert dans l'église. Il y a plein de manières dont beaucoup de gens ici n'ont même pas conscience. Seigneur, nous demandons que, alors que nous passons quelques moments à étudier ta parole, que tu puisses nous permettre d'ouvrir nos cœurs, d'entendre tes mots ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Dans vos Bibles, vous trouvez 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1.
Starting with verse 3, we read this.
1 Pierre, chapitre 1, verset 3. En lisant
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être relevé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Nous avons commencé à regarder ce passage la semaine dernière et nous avons vu qu'il commence vraiment ce passage en disant gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il nous a permis de naître de nouveau. C'est grâce à lui qu'on est né de nouveau. Et on regardait ce que ça voulait dire. Il nous a... Grâce à lui, on est né de nouveau. Et que nous avons vu que cette idée de naître de nouveau est quelque chose que Dieu fait dans nos vies. On ne peut pas nous-mêmes se faire naître de nouveau. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. Et nous avons regardé les différentes relations, connexions dans ce passage, et j'avais dit, c'est pas la peine d'essayer de tout lire de ce qui est projeté, mais en bleu, c'est ce qu'il dit, il nous fait naître de nouveau, et toutes ces flèches montrent différentes choses qui sont en relation avec le fait d'être né de nouveau dans le passage. Donc ce concept est vraiment essentiel. Il faut qu'on pour qu'on comprenne ce que Pierre dit dans ce passage. Alors on s'est dit, alors voyons, si une personne est née de nouveau, il y a des preuves. Dans 1 John, on parle du fait qu'ils croient et ils aiment Jésus. Ils ont de l'amour pour les autres chrétiens. Ils ont une obéissance joyeuse à ses commandements. Dans 1 Pierre, on voit qu'ils ont également un amour pour Jésus, la croyance en Jésus et une joie qui ne s'exprime pas, qui est indescriptible. Dans 1 John, chapitre 5, il est également dit qu'une personne qui est née de nouveau et libéré du péché, et qui maintenant vit une vie d'obéissance et de sainteté devant Dieu, parce que justement il n'y a plus ce péché dans leur vie, parce qu'ils ont été sauvés, qu'ils sont nés de nouveau grâce à l'Esprit de Dieu. Une des choses qu'on a fait la semaine dernière, pour qu'on priait, c'est qu'on a passé un petit peu de temps à prier pour des gens que nous connaissons qui ne connaissent pas Jésus.
Et
on a mis des post-it sur les murs, je crois, et il y avait plein de noms, des douzaines et des douzaines de gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin de naître de nouveau grâce à l'Esprit de Dieu. Comment cela se passe-t-il? On a tous ces gens pour qui on prie, tous ces gens que l'on connaît, on voudrait qu'ils puissent connaître Jésus, et comment cela se produit? Comment cela se produit? C'est vraiment une question immense. Comment on peut faire ça? Dans 1 Pierre, chapitre 1, allez, tout à la fin, au verset.
Let's see, where was I?
Où c'était déjà? Verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Verset 23.
Verset 23. Put it up there for you.
Voilà, il est affiché pour vous. En effet, vous êtes né de nouveau, non pas d'une semence incorruptible, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous êtes né de nouveau à travers la parole vivante de Dieu qui vous a été annoncée. C'est une des choses que nous devons vraiment comprendre, que notre salut et le salut des autres personnes viennent par la parole de Dieu. Et il dit de manière spécifique que la parole de Dieu qui vous a été annoncée, qui vous a été prêchée, cette phrase m'a fait penser, qu'est-ce qui a été prêché par Pierre quand Pierre est allé autour du monde pour partager sa vie chrétienne, sa foi? Qu'est-ce qu'il prêchait? Quel était son message? Qu'est-ce qu'il disait? Vraiment, quel était le contenu de son message? Alors je suis retourné dans le livre des Actes et j'ai regardé ce qu'il racontait. La première fois qu'on voit Pierre parler, c'est le jour de la Pentecôte. On rappelait que les disciples étaient rassemblés, Jésus était mort, il était revenu à la vie, il leur avait dit d'attendre 40 jours, donc ils étaient à l'étage, ils attendaient le venu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue, et tout d'un coup une foule s'est réunie, et Pierre, pour la première fois, a prêché son premier sermon. Et le premier sermon de vraiment de l'Église, et dans Actes chapitre 2, il dit, je vais vous expliquer ce qui se passe et ce qui vous arrive. C'est le Saint-Esprit qui vient sur vous, comme ça a été promis par Jésus et les prophètes, dont Joël. Donc il dit, il explique tout ça. Donc il leur dit d'abord, voici ce qui se passe maintenant. Et au verset 22 de Actes chapitre 2, Acte 2, verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Donc il parle d'abord, Pierre parle d'abord de la venue du Saint-Esprit et commence à prêcher, à le mettre dans le contexte de la mort de Dieu, de Jésus. Le fait que Jésus-Christ est mort, a été enterré et est revenu à la vie. Au verset 36, il dit cela.
Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him
que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Dans Actes chapitre 3,
in chapter 3 of the book of Acts, Peter has healed somebody and a crowd gathered.
Pierre a guéri quelqu'un dans la foule. La foule s'est rassemblée autour de lui en se demandant mais comment c'est possible que cette personne ait été guérie? Et dans Actes chapitre 3, verset
12,
quand Pierre vit cela, il dit au peuple, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renié devant Pilate, qui était lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce, la meurtrière. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Verset 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration. Vous avez vu ce qu'il a fait, ce qu'a fait Pierre dans ce sermon? Il a pris les circonstances actuelles, qui étaient l'intérêt du peuple à ce moment-là, que, par exemple, la personne a été guérie, et avec cela, il l'a rattaché avec la mort et la résurrection de Jésus. Et que la mort et la résurrection de Jésus étaient la manière dont leurs péchés pouvaient être pardonnés, la manière dont ils pouvaient obtenir la vie éternelle. Il leur a dit cela dans son message. C'était ça le contenu de son prêche. C'était cela qu'il voulait leur communiquer. Les chefs de la loi, les dirigeants ont entendu cela et ils ont demandé à Pierre de venir pour lui poser des questions. Dans Actes chapitre 4, Pierre parle de nouveau, il parle aux leaders, à ces gens qui ne connaissent pas Jésus, il leur parle de Jésus. Actes chapitre 4, verset 7. Ils lui demandent, ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent, par quelle puissance? Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, alors que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisait et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il y a une autre conversation. Cette fois-ci, les dirigeants du peuple essayent d'arriver au fond de cette histoire, de savoir ce qui se passe, tout le tumulte qu'il y a dans la ville. Qui vous a donné l'autorité de faire ce rassemblement? Qui vous a donné l'autorité de guérir cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc ils prennent ces circonstances. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils prennent des circonstances et les emmènent à la croix. Ils relient ça avec Jésus qui a été crucifié pour vos péchés et ramené à la vie par Dieu. Ça, c'était le contenu de son message. C'était le contenu de son prêche. Et dans Actes chapitre 5, encore une fois, ils sont questionnés. Ils sont questionnés par les grands prêtres.
Why are you keep talking about this? And Peter gives a short answer. They've been forbidden to talk.
On leur avait interdit de parler de Jésus.
Et au verset 28, chapitre 5,
nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il les amène à la croix. Il les ramène à l'histoire, à la signification de la croix, en expliquant que Jésus a été crucifié pour les péchés du monde, et que Dieu l'a relevé à la vie. Et il les rappelle, il leur redemande encore une fois de se repentir et de croire en Jésus. C'est encore le contenu de ce message. Ensuite, on va à Actes chapitre 10. On va avoir encore un exemple de plus. Cette fois-ci, Pierre est expressément appelé à aller dans la maison d'un païen, d'un païen qui est intéressé dans le message de Dieu. Et Dieu a préparé le chemin dans le cœur de ces païens en le faisant appeler Pierre, en le faisant rencontrer Pierre. Et Pierre a eu une vision et il vient voir cette personne. Il vient faire cette réunion. Actes chapitre 10, verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur une croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Nous pourrions continuer. Nous pourrions examiner le message de Paul et le livre des Actes. Nous pourrions examiner ce que Stéphane a dit avant d'avoir été lapidé dans le livre des Actes. Étienne, ce que Étienne a dit avant d'être lapidé, il prend à chaque fois, ils prennent les circonstances qui sont autour d'eux et les raccrochent à la croix. Le message de Jésus crucifié pour les péchés et relevé à la vie et le besoin de se repentir et de croire. C'est le message qui revient tout le temps et qui revient et revient encore. C'est le message. C'est la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. Et Pierre nous dit, vous avez entendu, et le résultat, c'est que vous êtes né de nouveau. D'une certaine manière, cette parole vous a atteinte et vous a fait naître de nouveau. Okay? Pensez au nom des gens que vous avez mis sur les vitres la semaine dernière, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ont besoin d'entendre ce message. Ils ont besoin de l'entendre. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ils ont besoin d'entendre cela. Nous ne pouvons pas nous arrêter avant de faire cela. Le message de la bonne nouvelle, ce n'est pas juste d'être gentil avec les gens. Nous avons un problème parce que nous n'avons pas été gentils avec les gens. Quelle est la solution à ce problème ? Ce n'est pas d'essayer plus fort d'être gentil. C'est Jésus. Que Jésus est mort sur la croix et a été ressuscité. C'est ça, votre opportunité, nous a donné l'opportunité d'être nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. C'est ça, le message. Alors, arriver à la foi en Christ vient comme conséquence de la parole de Dieu qui vient travailler dans les gens, que ce mot de salut qui vient aux gens, mais c'est également un travail du Saint-Esprit. C'est également un travail du Saint-Esprit. Tous ceux qui entendent la bonne nouvelle ne sont pas automatiquement nés de nouveau. Dieu prend ce message et l'utilise. Mais ce n'est pas simplement le message lui-même qui fait naître de nouveau. Satan a entendu le message. Ok? Cela ne signifie pas qu'il va aller au ciel, au paradis. Il doit y avoir un travail du Saint-Esprit qui se met en place dans chacun. Titus chapitre 3.
Paul's writing here and he says, when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared,
l'amour et la de Dieu nous a sauvés, ce n'est pas à cause de les œuvres, que nous faisons dans notre justice, mais par sa grâce. Comment ? Par le lavage et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit en nous. Donc le Saint-Esprit est vraiment actif dans ce processus d'être né de nouveau. Le Saint-Esprit doit être à l'œuvre pour que cela se fasse. Dans Jean chapitre 16, Jésus prépare ses disciples pour son départ. Et il dit cela. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit vient et une de ses fonctions, c'est de convaincre les gens du péché. De convaincre une personne qu'ils sont pécheurs, qu'ils n'iront pas et ne passeront pas le test, l'examination de Dieu, qu'ils sont coupables. J'ai aimé, vous savez, quelle était la phrase que tu as dit ? C'est interdit d'interdire. En mai 68, en termes d'église, ça voudrait dire ça n'existe pas le péché. Faites ce que vous voulez. Vous voulez savoir quelque chose ? C'est pas à nous de décider si le péché ça existe ou pas. Dieu dit que ça existe. Et il y a un examen qui vient. Et le Saint-Esprit nous convainc et nous rend coupables et nous montre que nous ne pouvons pas passer cet examen devant Dieu. Le Saint-Esprit vient et nous convainc de notre péché et la justice et le jugement. Et comment est-ce qu'on va passer à travers tout cela ? On n'est pas juste, on n'est pas droit. Comment est-ce qu'on peut passer cet examen le jour du jugement ? Et la parole de Dieu vient. La parole à propos de Jésus qui est mort sur cette croix vient comme un substitut pour nous. Et le Saint-Esprit commence à nous faire comprendre, à nous faire voir comment la repentance et la foi vont en fait nous permettre de passer cet examen. C'est avec sa justice que nous sommes lavés complètement, que nous sommes saints et purs devant Dieu. C'est lui qui nous rend purs, ce n'est pas nous. Le Saint-Esprit nous convainc de tout ça. Le Saint-Esprit nous permet de passer à travers ce processus. Certains d'entre vous savent qui est cette personne. Vous reconnaissez ? C'est Charles Spurgeon, qui était un prédicateur célèbre. Mon fils a un mug à café avec ce Charles Spurgeon dessus. C'était un grand fan. Je suis tombé sur son témoignage l'autre jour et je voudrais vous en partager une partie. Il dit, dans ma conversion, le fait que ce qui m'a vraiment aidé à faire cette découverte, c'est que je n'avais rien à voir, rien à faire en fait, mais juste regarder à Christ pour être sauvé. Je pensais que j'étais une très bonne personne. Mon impression de moi-même, c'est que personne n'était un aussi bon écouteur que moi. Je savais écouter. Est-ce que j'avais été enseigné par des chrétiens ? Oui, c'est le cas. Ma mère, mon père. Est-ce que j'avais entendu la bonne nouvelle ? Oui. Je pense que j'avais bien entendu. Et pourtant, d'une certaine manière, c'était comme une nouvelle révélation pour moi que je devais croire et vivre cette foi. Je me suis repenti. J'ai confessé que j'étais incrédule. Et j'ai mis mes mains en prière et que j'avais été parfois ennuyé par des chants à propos de Jésus. J'ai confessé tout cela, mais après avoir entendu le gospel plusieurs fois, toutes les lignes, tous les préceptes de la bonne nouvelle, quand la parole de Dieu est vraiment venue à moi avec puissance, c'est comme si j'avais vécu parmi les tribus qui n'ont jamais été visitées par le Seigneur en Afrique et qui n'ont jamais entendu l'écho de cette fontaine qui lave et de ce sang qui lave du péché. Et quand pour la première fois j'ai reçu le salut, je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment entendu ça avant ? Et je me suis demandé si les personnes qui avaient prêché avant, est-ce qu'ils avaient vraiment prêché ça ? Mais je pense que j'avais entendu le gospel bien prêché, en fait, des centaines de fois avant. Mais que cette fois-ci, c'était ça la différence. Que cette fois-ci, je l'avais entendu comme si je l'avais entendu pour la première fois. Et que cette fois-ci, il n'aurait pas pu être plus clair. Mais c'est surtout la puissance du Saint-Esprit qui était présente à ce moment-là pour ouvrir mes oreilles et pour guider le message vers mon cœur. Il dit, voyez, j'ai entendu la bonne nouvelle de Dieu plein de fois avant, mais il y avait un moment où c'était comme si c'était la première fois que je l'entendais. Et le Saint-Esprit a vraiment ouvert mes yeux, a ouvert mon cœur. Et là, j'ai pu recevoir et comprendre. Et il continue en disant qu'un dimanche, il allait à l'église, qu'il y avait une tempête de neige, qu'il ne pouvait pas attendre l'église à laquelle il allait généralement. Et donc, il a fini par aller dans une autre église. Comment elle s'appelle ? C'est un nom bizarre. Les méthodistes primitifs. Ils étaient connus pour chanter le plus fort qu'ils pouvaient. Et ils ne chantaient pas tous juste, mais ils chantaient tous très fort. Et il s'est dit, je suis arrivé là-bas, il y avait environ 12 personnes. Et même le prêtre ne pouvait pas s'y rendre. Et donc quelqu'un s'est levé pour prêcher. Il a prêché en disant, il faut regarder à Jésus. Le mec ne pouvait même pas parler un bon anglais, il n'était pas éduqué, mais il parlait de regarder à Jésus. Et il a décrit cette image de Jésus qui était sur la croix, aussi bien qu'il pouvait avec ses mots. Il a parlé peut-être 10 minutes, et ensuite il n'avait plus rien à dire. Mais Dieu a utilisé ce message pour le pointer, lui, vers Jésus. Et c'est comme ça qu'il a entendu le message de manière authentique. Charles Spurgeon s'est converti ce jour-là. Enfin, a reçu le salut ce jour-là. C'est ce même message, dit différemment, et le travail du Saint-Esprit qui a permis à Charles Spurgeon d'être sauvé. Nous avons mis les noms des gens sur les fenêtres la semaine dernière, personnes qui ont besoin de connaître Jésus. Dans Romains chapitre 10,
verset 5.
En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Verset 9, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Encore une fois, c'est Paul qui dit que c'est ça le message de Dieu. Que si vous croyez, si vous confessez avec votre bouche que Jésus est le Seigneur, et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, vous serez sauvés. Mais comment alors l'appelleront-ils tous ceux qui ne l'ont pas cru? Et comment pourront-ils croire en lui s'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Et comment est-ce qu'ils pourraient entendre si personne ne leur en parle? Et comment est-ce qu'ils pourraient prêcher s'ils ne sont pas envoyés par Dieu, comme il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comment est-ce qu'ils pourraient croire si on ne les enseigne pas? Comment est-ce qu'on pourrait leur dire? Comment est-ce qu'ils pourraient l'entendre si nous ne leur disons pas cette bonne nouvelle? Comment cela va se produire? Ça ne va pas se produire. Ça ne va pas se produire. Jésus nous a appelés à être des témoins. Jésus nous a appelés à dire aux gens, à parler de lui aux gens, à commencer en disant, voilà où vous êtes, et de les amener au message de la croix. Ils l'ont peut-être entendu, cette bonne nouvelle. Et s'ils l'entendent pour de vrai, ils peuvent être sauvés grâce au Saint-Esprit. Combien d'entre vous êtes nerveux et partager la parole de Dieu avec quelqu'un? Oui, beaucoup d'entre nous. Sont anxieux à l'idée de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un. Je vais juste partager quelques pensées avec vous. Premièrement, c'est un message simple. Et si vous êtes né de nouveau, vous l'avez expérimenté. Et vous partagez simplement ce que Dieu a fait dans vos vies. Et si vous faites du mieux que vous pouvez, Dieu fera le reste. Vous savez, vous avez des conversations avec des gens, vous essayez de leur parler de Jésus, et vous partez en vous disant, « Ah, il y a une centaine de choses que j'aurais pu mieux dire. » Ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit peut prendre ce que vous avez dit et l'utiliser dans la vie de cette personne, ok? Alors, vous savez, ce moment où vous avez l'opportunité de partager la bonne nouvelle, faites de votre mieux et Dieu fera le reste, ok? C'est pas que vous devez avoir un 20 sur 20 sur le message de l'Évangile. C'est pas comme ça que les gens se convertissent. Et deuxièmement, Dieu nous donne les moyens avec le Saint-Esprit d'être des témoins efficaces. Donc vous ne partagez pas, vous n'utilisez pas vos propres forces pour partager. Vous partagez votre foi parce que Dieu vous a équipé pour le faire. Ok? Voici ce que je voudrais faire, c'est que si vous êtes anxieux à l'idée de partager la bonne nouvelle, je voudrais que vous vous leviez pour qu'on puisse prier pour vous. Que Dieu puisse nous utiliser tous et notre nervosité, même dans l'état dans lequel on est avant de partager la bonne nouvelle, mais si vous êtes nerveux à l'idée de partager la bonne nouvelle, de partager cette parole de vérité, je vous invite à vraiment à vous lever. Et je suis le premier à me lever dans ce cas-là. Just go Si vous n'êtes pas nerveux, c'est très bien, restez assis. Alors, vous pourrez prêcher la prochaine fois. Mais... Seigneur, tu vois ces gens qui sont debout. Ils sont nerveux. Ils sont nerveux à l'idée de partager la bonne nouvelle. Et Seigneur, pour beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'ils savent que l'enjeu est très haut, très grand. Pour certains d'entre eux, c'est parce qu'ils sont, ils ont peur de fragiliser une relation. Et Seigneur, je te prie avant tout que nous ne soyons pas honteux de la bonne nouvelle, parce que ce message, c'est la puissance de Dieu et le salut pour tous ceux qui croient. Alors Seigneur, je te prie que tu puisses enlever toute honte, tout sentiment d'être deuxième, d'être moyen, d'être la minorité, toute peur d'être ridicule, Seigneur, que nous ne soyons pas honteux de ce message de salut. Seigneur, je te prie que tu puisses nous remplir tous de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit dans le livre des Actes que nous recevrons la puissance du Saint-Esprit quand il viendra sur nous et que nous serons témoins. Et que notre témoignage ira aux quatre coins du monde. Alors Seigneur, je te prie que tu nous remplisses de nouveau, fraîchement, du Saint-Esprit et de son pouvoir. Un Seigneur. Troisièmement, je prie que tu puisses nous donner des opportunités, même cette semaine déjà, de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un. Que nous puissions partager la mort et la résurrection de Jésus avec quelqu'un cette semaine. Et Seigneur, alors que tu ouvres la porte pour que cela se produise, je ne sais pas quand, ça peut arriver dans le tram, ça peut arriver alors qu'on mange avec quelqu'un, ça peut arriver de toutes les manières que tu veux, Seigneur, et qu'au moment que tu ouvres cette porte, je prie que nous puissions nous souvenir que nous avons été oints par le Saint-Esprit pour être tes témoins et que nous puissions partager ce message. Et Seigneur, je prie que les gens puissent naître de nouveau par ton Saint-Esprit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tous les autres d'entre vous peuvent maintenant vous lever parce qu'on va chanter. J'invite la...